Bientôt 8h23 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, en souffrance.
Cela faisait 20 ans qu'on n'avait pas vu cela. Plus de 20 000 policiers ont défilé hier à Paris pour plus de considération, plus de reconnaissance, plus de moyens. Policiers mal aimés, écœurés, épuisés, s'exclame en une le courrier Picard. SOS Police lance le télégramme. À bout, soupire le Midi Libre et le journal de s'interroger. Comment a-t-on pu en arriver là, porté au nu par les Français il y a moins de 4 ans, après les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan? Les policiers crient leur ras-le-bol dans les rues de Paris. Un malaise profond marqué depuis le début de cette année par une explosion des arrêts maladie et une cinquantaine de suicides dans les commissariats. Triste bilan. L'uniforme de flic ne fait plus rêver, pointe encore le Midi Libre. Pire, il n'impressionne plus les voyous et de nombreux citoyens qui n'hésitent pas à remettre en cause, pour un oui ou un non, l'ordre républicain. Tout est donc à revoir, des effectifs au salaire, en passant par les moyens matériels. Le gouvernement a du pain sur la planche s'il veut renouer la confiance.
En effet, renchérit la Voix du Nord, quand les policiers sautent le pas et se transforment en manifestants, le pouvoir ne peut que s'inquiéter.
Oui, dans une période de tension sociale, fréquemment marquée par des violences, à une époque où la menace terroriste n'a pas disparu, le président de la République et le gouvernement ont besoin plus que jamais de pouvoir compter sur une police capable de protéger les citoyens. Cette capacité dépend de la motivation des policiers, mais aussi de leurs moyens et de leur organisation. Or, relève encore la Voix du Nord, il semble bien que le malaise persistant dans la police révèle sinon une faillite, au moins d'inquiétantes faiblesses dans la façon dont l'État se charge de ce qui est pourtant une de ses tâches régaliennes. Il y a quelques années, cette manifestation aurait déclenché une crise politique, note l'opinion, et le gouvernement aurait été durement pris à partie sur la fragilisation de ce maillon indispensable à l'exercice du pouvoir régalien. Rien de tel, cette fois, ou presque. Le rapport entre la police et l'État s'est détricoté. Les ministres passent sans laisser de traces et des hommes politiques de premier plan, Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, traitent les flics de barbares. Bien entendu, poursuit l'opinion, les policiers sont loin d'être irréprochables et leur corporatisme exaspérant est un obstacle à l'adaptation indispensable de leur profession. Mais, conclut le journal, lorsque la police passe de l'autre côté des barrières pour former des cortèges, eh bien, c'est l'État qui est fragilisé.
Autre profession en souffrance, les enseignants.
Le 21 septembre, relate Libération, Christine Renon, directrice d'école à Pantin, en Seine-Saint-Denis, a mis fin à ses jours. Dans plusieurs lettres, elle met en cause l'institution, la surcharge de travail, le manque d'écoute, l'accumulation de processus urgents et contradictoires, les impacts sur tous les plans professionnels. Commentaire d'Antoine Leblanc, président du Comité national de géographie et professeur, interrogé par Libération. Ce suicide, affirme-t-il, est le visage d'une souffrance plus généralisée du corps enseignant, épuisé par l'accumulation des réformes et par les injonctions contradictoires du ministère. Un écrasement, un piétinement par le système, perçu comme une sorte de machine, poursuit-il, qui broie à coups de protocoles, de modifications de procédures, de simplifications, qui sont autant de changements à mettre en place sans laisser de temps aux personnes bien humaines pour prendre un peu de recul, pour digérer, pour se reposer. À l'école primaire, dans le secondaire, dans le supérieur, on parle parfois, souvent, du mal-être des enseignants. Eh bien, c'est inexact, s'exclame encore Antoine Leblanc. La situation me paraît bien pire, affirme-t-il, pour y remédier. Il faut des moyens, certes, mais aussi réellement de la considération et du temps.
À la une également ce jeudi, Macron sur tous les fronts, c'est le Figaro qui le constate.
Après une parenthèse quasi silencieuse et gérée au cordeau pour les 4 jours d'hommage à Jacques Chirac, le président de la République s'apprête en effet à remonter en première ligne, relève le Figaro, ce jeudi soir à Rodez pour lancer le grand débat national sur les retraites. Le lendemain, le vendredi soir à Clermont-Ferrand pour célébrer le centenaire du journal La Montagne. La semaine prochaine à Lyon pour le fonds SIDA. Depuis New York, où il assistait la semaine dernière à l'Assemblée générale de l'ONU, Emmanuel Macron a fait voler en éclats son vœu de discrétion médiatique entre son discours sur l'environnement et son forcing diplomatique pour pousser l'Iran et les États-Unis à se parler. Le président a pris longuement le temps de commenter les questions de politique intérieure française. Emmanuel Macron fait le choix de l'hyper-présidence, pointe encore le Figaro, car il aime ça, commente le journal. Il aime s'emparer de tous les sujets. Il aime montrer qu'il s'en empare, surtout s'ils sont compliqués. Et il aime laisser penser que personne d'autre que lui n'est capable de faire le travail à sa place. Et comme lui, il savoure ce contact direct avec ses concitoyens, y compris, surtout, si ce contact est âpre ou animé. Cette exposition personnelle fait partie, conclut Le Figaro, fait partie de l'ADN macronien.
Et puis le rugby avec la Coupe du Monde. Les Bleus ont battu les Américains hier, 33-9, mais il s'agit là, d'après le Parisien, d'une victoire inquiétante.
En effet, pointe le journal, entre faute technique et stratégique, les Français ont peiné pour battre les modestes Américains. Comme face à l'Argentine, le 15 de France a été incapable de rester appliqué tout au long de la rencontre. Victorieuse, peu convaincante d'un match confus, renchérit l'équipe. Les doublures bleues ont confirmé que la France n'avait aucune marge de manœuvre avant d'affronter les Tonga et l'Angleterre. Le seul mérite tangible de cette équipe de France, poursuit l'équipe, c'est naturellement d'avoir une nouvelle fois su réagir face au danger pour creuser l'essai du break par Gaël Ficou quand les Eagles étaient revenus à 3 points seulement, puis y ajouter pour finir un bonus qui peut toujours servir. Le temps dira, conclut l'équipe, si c'était la réaction désespérée d'une équipe de circonstances au bord du ridicule ou bien le deuxième pas vers la rédemption d'un noyau de vieux braves décidés à ne plus perdre. Charge à eux de démontrer qu'une Coupe du Monde de rugby qui menace désormais de se perdre à 31 peut se gagner à 23.
Frédéric Couteau pour la revue de presse que vous retrouvez en ligne.